Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour un Ici l'Europe tourné vers le sud. Nous partons en direction de l'Espagne, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus, qui met en œuvre des mesures d'ailleurs très strictes et espère tout de même passer un bel été. En visioconférence, nous retrouvons maintenant Arantxa González-Laya. Bonjour, vous êtes la ministre des Affaires étrangères et européennes de l'Espagne. En visioconférence, je le disais, depuis Madrid.
Bonjour Madame la Ministre, c'est en tant qu'économiste que vous avez longtemps déployé vos talents de diplomate, d'abord comme porte-parole de la Commission européenne pour le commerce auprès de Pascal Lamy à partir de 2002. 3 ans plus tard, vous le suivez à l'Organisation mondiale du commerce à Genève quand il en devient le directeur. Vous êtes son porte-parole et son chef de cabinet. Et puis en 2013, vous prenez la tête du Centre de commerce international, une organisation en lien avec l'OMC et l'ONU, basée à Genève et qui s'occupe de développement. En janvier dernier, retour à Madrid, où le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez vous propose le portefeuille des affaires étrangères. À peine arrivé, vous voilà donc confronté à la pire crise sanitaire qu'ait connue votre pays depuis la très mal nommée grippe espagnole de 1918, puisqu'elle venait en fait des États-Unis.
Oui, d'ailleurs, Madame la Ministre, je crois que vous avez vécu ce drame dans votre entourage, drame donc personnel, comme beaucoup de vos compatriotes, parce que ce virus est une réalité maintenant pour tous les Espagnols et, ça, et son côté mortifère, hein, c'est ça.
Bon, c'est un virus qui nous touche tous, Espagnols, Français, Italiens, Américains, Japonais, bien sûr Chinois. C'est une pandémie pour laquelle on n'était pas préparé du tout, surtout psychologiquement, puisque c'est la première fois dans notre histoire récente qu'il nous arrive quelque chose des si profondes et des si bouleversantes. Mais il faut travailler pour récupérer cette nouvelle normalité à laquelle nous voulons revenir aussi tôt que possible.
Alors, depuis jeudi, tous les habitants de votre pays, à partir de l'âge de 6 ans, doivent impérativement porter un masque dans les lieux publics, dans la rue, sous peine d'amende, des amendes très fortes, elles peuvent aller jusqu'à 600 €. Vous êtes l'un des pays européens parmi les plus stricts dans les mesures de déconfinement. Pourquoi cette rigueur? Et pensez-vous que vos voisins sont trop laxistes?
Non, nous sommes très, très humbles dans la gestion de cette crise. Ce que nous voulons, c'est protéger la santé de nos citoyens. On a été strict dans la prise des mesures et on a vu un résultat. Et donc, nous, aujourd'hui, essayons, avec ces mesures qui continuent à être assez dures, d'essayer de contrôler les virus, de ne pas être dans une situation dans laquelle c'est les virus qui nous contrôlent. Nous voulons garder les virus sous contrôle pour pouvoir graduellement retourner à cette nouvelle normalité, ouvrir graduellement nos frontières, permettre aux autres de se déplacer dans notre pays, gagner la possibilité de se déplacer pour les Espagnols dans notre propre pays, et tout cela dans des conditions de santé qui protègent les citoyens contre les virus. Donc, petit à petit, on voit des résultats aux mesures qu'on a prises, mais gardant toujours à l'esprit qu'on a perdu beaucoup trop de vies pour le mettre maintenant en risque dans ces derniers moments des contrôles de la pandémie.
On assiste à une réouverture des frontières en ordre dispersé un petit peu en Europe. Vous, en l'occurrence, vous n'allez pas imposer de quarantaine obligatoire bientôt. Ça sera possible? Et dans quelles conditions de rouvrir les frontières aux Britanniques, aux Français?
Bon, déjà, ce que nous avons fait depuis le début de la pandémie, c'est d'imposer des mesures de confinement aux Espagnols qui sont restés chez eux pendant presque 8 semaines pour, encore une fois, réduire les contacts physiques qui propagent les virus. Une fois qu'on a commencé à ouvrir graduellement les mouvements à l'intérieur de l'Espagne, on le fait graduellement, les régions qui sont le moins touchées peuvent aller plus rapidement que d'autres régions, on a mis des mesures de quarantaine pour éviter l'importation des cas de Covid dans l'Espagne. On sait que c'est des mesures temporaires, c'est des mesures nécessaires, mais temporaires, et temporaire pour nous veut dire le moment où les données épidémiologiques et les capacités sanitaires sont aux normes, on commencera graduellement à enlever ces mesures de restriction et on le fera en les discutant avec nos partenaires européens.
Mais alors justement, c'est un peu ce qui étonne les Européens et les politiques. La Commission avait proposé qu'il y ait une coordination, une harmonisation du déconfinement. Ça n'a pas lieu du tout. Chaque pays en fait à sa guise. Ça donne plutôt l'impression d'un processus qui n'est pas maîtrisé.
Non, c'est pas tout à fait correct. Ce que la Commission nous a dit, c'est que chaque pays devait bouger selon ses propres données épidémiologiques, selon sa propre situation, selon les avis scientifiques, dépendant des pays, parce que l'évolution de cette pandémie a été différente dans les pays membres de l'Union européenne. Mais ce que la Commission nous a dit, et nous y adhérons strictement, c'est que les conditions pour faire ces déconfinements, c'est-à-dire quelles mesures on va prendre à la frontière, quelles mesures on va prendre pour garantir l'hygiène dans les hôtels, quelles mesures on va prendre en matière d'aviation ou de transport ferroviaire, toutes ces mesures devraient être un maximum possible coordonnées et aussi non discriminatoires. Mais ce n'est pas les dates qui doivent être coordonnées parce que les dates sont en fonction de l'évolution de la pandémie dans chaque pays.
Madame la ministre Arantxa González-Laya, ministre des Affaires étrangères espagnole, évidemment, pour vous, la réouverture des frontières, c'est crucial pour le tourisme, qui est un secteur primordial de votre économie. C'est aussi très important pour l'agriculture, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers chez vous. Alors, on a vu que l'Italie a fait une vague de régularisation. Est-ce que vous pourriez faire la même chose en Espagne? Est-ce que aussi vous dites... Mais c'est le moment pour l'Europe de revoir sa politique migratoire qui finalement est assez hypocrite. Officiellement, on ne veut pas des étrangers, mais on s'aperçoit à travers cette crise qu'on en a vraiment besoin dans tous les secteurs vitaux de l'économie.
Bon, nous avons mis en place toute une série de mesures pour nous assurer qu'il y ait de la main-d'œuvre dans l'agriculture. Comme vous venez de le dire, l'agriculture, c'est un secteur de notre économie qui est très important. Il y a des récoltes saisonnières à faire maintenant. Nous avons arbitré toute une série de mesures pour encourager la main-d'œuvre dans l'agriculture, à la fois pour les Espagnols, dans des situations de chômage, voudraient se tourner vers l'agriculture, mais aussi des citoyens et étrangères qui se trouvent dans notre territoire. On a pris des mesures qui, quelque part, répondent à ce que d'autres pays ont fait par la suite, comme l'Italie ou le Portugal. Sachant que nous sommes encore une fois très attachés à être sûrs qu'un secteur de l'économie comme l'agriculture peut aussi fonctionner. On a vu d'ailleurs comment l'agriculture européenne, une agriculture qu'on finance aussi avec un budget communautaire conséquent, nous a servi pendant cette crise et a démontré cette valeur, ce qui montre que ces investissements d'ailleurs qu'on fait dans l'agriculture européenne servent à beaucoup.
Et sur la politique migratoire alors?
Sur la politique migratoire, nous sommes un pays qui accueille des immigrants, qui les encourage à s'intégrer dans les marchés du travail, mais qui lutte aussi contre l'immigration clandestine et qui ne veut pas non plus donner des avantages à des réseaux criminels qui utilisent la pénurie et les difficultés dans beaucoup de nos voisins pour se faire un business. Donc, nous sommes un pays qui est des plus accueillants en Europe, à la fois sur des demandeurs d'asile comme sur des immigrés. Nous les intégrons dans les marchés du travail. Nous le faisons d'ailleurs pas simplement à l'occasion de cette pandémie. Nous avons une tradition de le faire. À la fois des immigrés qui viennent de l'Afrique, d'autres qui viennent plutôt de l'Est, des grands conflits à l'Est, mais aussi des latino-américains qui viennent en Espagne à cause de nos liens historiques et d'une langue et une histoire que nous avons en commun. Nous le faisons depuis des années, mais encore une fois,
tout en luttant contre l'immigration illégale et les passeurs de personnes. Nous voulons aussi une tolérance zéro.
Alors, la semaine a été marquée, Madame la Ministre, par l'initiative du couple franco-allemand. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont fait une série de propositions pour relancer la solidarité européenne, avec entre autres un fonds de 500 milliards d'euros pour les pays les plus touchés. Des précisions avec Mathilde Bénézé.
C'est une grande première dans l'histoire de l'Union européenne. Pour surmonter la crise engendrée par la pandémie, Paris et Berlin s'accordent sur un plan de relance ambitieux. 500 milliards d'euros financés par une dette commune des États européens. Une mutualisation de la dette qui, jusqu'ici, était impensable pour l'Allemagne d'Angela Merkel.
Il faut donc que ce fonds de relance apporte une contribution importante qui permette aux différents pays de l'Union européenne de réagir en fonction de leurs besoins. Pour cela, il faut un effort colossal et nous sommes prêts à le fournir du côté français et allemand.
Une dette contractée par l'ensemble des pays membres. Cet emprunt sera ensuite reversé dans le budget de l'Union européenne avant d'être transféré vers les secteurs d'activité et les régions les plus touchées par la crise sanitaire et économique. Mais le couple franco-allemand l'assure, les pays qui auront le plus recours à ce fonds n'auront pas pour autant à rembourser une somme plus importante que les autres. Pour Emmanuel Macron, le secteur de la santé devrait à terme tirer profit de ces investissements.
Notre souhait, notre volonté ensemble est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé et de nous engager ensemble. Des stocks communs de masques ou de tests, des capacités d'achat et de production communes ou coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser et identifier les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé. Elle doit devenir notre priorité.
Convaincre les pays adeptes d'une rigueur budgétaire comme l'Autriche et les Pays-Bas de soutenir ce plan de relance, c'est toute la difficulté à présent pour la France et l'Allemagne. La Commission européenne s'est réjouie de l'initiative. Sa présidente, Ursula von der Leyen, doit présenter son propre plan le 27 mai prochain pour la relance économique de l'UE.
Alors, Arantxa González-Laya, aussi ministre des Affaires européennes, on retient que la chancelière Angela Merkel a accepté le principe de mutualisation de la dette et qu'il s'agit de transfert et non plus de prêt. C'est une révolution, mais est-ce que votre pays soutient à 100% et a besoin de cet apport ?
Nous avons donné, bien sûr, la bienvenue à cette proposition franco-allemande qu'on considère c'est un pas dans la bonne direction. D'ailleurs, cette proposition reprend beaucoup des éléments que l'Espagne avait déjà mis sur la table avec une proposition que nous avions présentée il y a 3 semaines. Mais il reste quand même des éléments importants à clarifier. On espère que ces éléments importants, comme par exemple la taille de ce mécanisme, comme par exemple la proportion de transferts pour la proportion de crédits qui seront esquissés dans la proposition de la Commission européenne de, la semaine prochaine. On attend avec impatience cette proposition. On espère qu'elle sera à la hauteur du défi qui est un défi commun européen, qui est une sortie rapide et solidaire de cette crise économique qui touche, n'oublions pas, tous les pays membres de l'Union européenne.
Alors, vous le savez, les pays du Nord, les pays qu'on dit frugaux, seront très difficiles à convaincre. Les pays de l'Est sont aussi méfiants à l'égard de ce fonds qui est destiné en priorité à ceux qui ont le plus souffert de la pandémie, comme votre pays, l'Espagne ou l'Italie. Alors, est-ce que vous pensez qu'un accord est possible avant le prochain sommet ou vous craignez vraiment un veto ?
Un accord sera possible si nous partons du même diagnostic et si nous investissons sur une narrative qui est commune. Quelle est cette narrative ? Quel est le problème ? Le problème, ce n'est pas un problème du Sud contre le Nord. Ce n'est pas un problème des pays dits frugaux contre des pays qui ne seraient pas des bons gestionnaires des économies. Notre problème commun aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les marchés uniques, qui est les marchés de tous les Européens, nous aide à sortir de la crise. C'est une question pas de générosité, c'est une question de solidarité bien comprise. Aujourd'hui, ces marchés intérieurs retournent à chaque Hollandais, Danois ou Autrichien les doubles en bénéfice de ce qu'ils retournent à chaque Français ou à chaque Espagnol. C'est-à-dire pour chaque euro qu'un Danois, un Hollandais ou un Autrichien investit dans l'Union européenne, les retours, c'est le double pour un Français ou un Espagnol. C'est aussi la vérité de ce marché unique. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on demande de l'Autriche, le Danemark ou la Hollande, ce n'est pas de la générosité, c'est de faire un investissement il y aura un retour très important aussi pour leurs propres économies. Et si on ne fait pas ça aujourd'hui, la réponse sera aussi moins de retours pour la Hollande, l'Autriche et le Danemark dans les années qui suivent, parce que ces marchés européens ne pourront pas fonctionner. Donc, essayons de construire une narrative qui nous aide aujourd'hui à adopter cette réponse les plus rapides possibles au bénéfice de toutes les Européens.
Madame la ministre, vous-même, vous aviez dénoncé un manque de solidarité européenne, entre autres des Néerlandais, avec une formule fameuse. Nous avons heurté un iceberg inattendu. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, lui, estime que l'Europe n'a pas été à la hauteur. Qui sont les fautifs ? Est-ce que ce sont toujours les États membres égoïstes ou la Commission qui manquerait d'initiative, finalement, ou les deux ?
Bon, écoutez, moi, je regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein, si je compare cette crise 2020 à la crise que j'ai vue et que j'ai vécue aussi en 2008, la réponse européenne, certes un peu hésitante au début, a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus conséquente. Aussi peut-être parce que cette crise n'était pas une crise du Sud comparée au Nord, mais c'était une pandémie, une crise systémique. Nous l'avons tous compris. La Commission a hésité au début, a mis des mesures en place assez rapidement. La Banque centrale européenne a répondu avec une réponse forte. Les États membres ont pris trois mesures pour protéger les emplois, pour ouvrir des lignes de crédit pour les États et pour des crédits pour les entreprises, reste quand même cette moitié du verre à remplir. C'est le fonds des récupérations européens avec le budget pour les prochains 7 ans. C'est là que nous devons nous atteler aujourd'hui, essayant de garder cet esprit de « on est tous dans ces mêmes bateaux ». Il faut tous donc ramer dans la même direction pour arriver aussi tôt que possible de l'autre côté de cette crise imposée à tous par un virus contre lequel on lutte tous ensemble.
Arantxa González-Laya, vous qui avez travaillé longtemps au sein de l'OMC, qui connaissez parfaitement ses rouages, il y avait la guerre commerciale, il y a maintenant ce virus qui remet en cause la mondialisation. Alors comment est-ce que l'Europe doit à l'avenir envisager le commerce international, comment notamment avec ses principaux partenaires, Chine, États-Unis ?
Bon, une partie de la réponse doit beaucoup à ce qu'on va faire pour la construction de ce fonds de récupération européen, parce que c'est ça qui va permettre à l'Europe d'avoir une certaine autonomie stratégique. La réponse à la crise va déterminer si l'Europe aura la capacité d'avoir un rôle principal dans les affaires du monde dans l'avenir, ou si elle aura un rôle secondaire, si elle sera secondaire par rapport à d'autres géants comme la Chine ou les États-Unis. C'est pourquoi la réponse à cette crise, c'est sûrement des emplois, c'est sûrement des entrepreneurs et des entreprises à protéger, mais c'est aussi surtout la capacité autonome de l'Europe pour définir des réponses aux problèmes de l'avenir, dont les commerces internationaux, où nous savons bien, nous devons le réformer pour le faire plus juste, le faire plus équitable, plus soutenable, mais encore une fois, la capacité de l'Europe d'être un leader prendra aussi de sa capacité de sortir rapidement de cette crise. Donc, travaillons vite parce que les défis, les fractures, les tensions géopolitiques sont là et l'Europe peut construire ce nouveau monde multilatéral qui va mieux protéger les Européens en poussant une coopération internationale plus forte.
Merci, Madame la Ministre, d'avoir été en notre compagnie sur France 24 et RFI.
Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr retrouver Ici l'Europe sur nos sites internet France 24 ou RFI en version audio. Bonne semaine à tous.
Une semaine d'actualité.